14h, on en jase.
Boulevard 102.1
avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Celle-là, je l'aime, cette bête-là. Je les aime toutes, mais celle-là particulièrement, il me semble que ça nous réveille. On dit, hing, on est de retour au bureau. Il est 13h37, mais je le sais, quand on en jase le midi sur les ondes de Boulevard 101 avec Jeff Fortin et Pascal CV, je vais avoir des bons chroniqueurs, je vais avoir de la bonne information, des bons dossiers. C'est ce qui nous attend avec Gabriel Gigard de l'Institut économique de Montréal. Avant, vous rappeler de nous rejoindre par texto au 418-971-1021 pour réagir. Vous êtes énormément à le faire. Vous n'avez pas cru à ça que Rémi Villemur ne connaît pas le football. Ça n'a pas d'allure. Hey, c'est un sacrilège, Pascal CV, pas écouter le football.
Ben moi, j'aime ça, les gens qui sont néophytes dans quelque chose, parce que là, tu peux essayer de les... un petit peu les polluer avec ta passion. Là.
En effet.
Mais j'avais l'impression qu'il trouve ça trop long. Il est trop dans le jus pour suivre le football.
On va aller rejoindre notre analyste politique préféré de l'Institut économique de Montréal, Gabriel Gigard. Gabriel, est-ce que tu suis le football et es-tu excité par le début de saison ce soir?
Non, moi, je suis un faux. C'est-à-dire que je m'excite lorsque c'est le temps de la finale, mais à part ça, je t'avoue que...
OK, toi, la finale, c'est le Super Bowl, je gage, Gabriel?
Ouais, elle t'a vu le niveau, là.
Là, Pascal CV, on a du travail à faire avec nos chroniqueurs et collaborateurs parce que moi et toi, on est des maniaques finis de football pour leur transmettre cette passion-là. Je suis en train de me dire que le monde de Montréal n'aime pas le football. Ils sont bizarres à Montréal.
Mais c'est correct.
Là.
C'est peut-être parce que notre équipe du Rouge et Or ici à l'Université Laval c'est est tellement hot qu'on a baigné dedans comme Obélix dans la potion.
Très supérieur au carabin d'une
Université
de
Montréal.
Puis
c'est là où j'allais.
Dire,
ça
là.
Nous permet peut-être de s'élever face à vos carabins. Gabriel, il n'y a pas de problème, là.
C'est ça. Nous autres, on a le Canadien, par contre, pour ça. J'écoute le
hockey. Oh, le Canadien. Le Canadien. Tant qu'avoir une équipe comme le Canadien, j'aime mieux de pas en avoir. OK, on arrête là, on arrête là. Faut parler d'enjeux très importants dans ces enjeux-là. Évidemment, il y a les finances publiques. On entend depuis hier, Gabriel, le mot, le retour du mot « austérité », et c'est dit de la bouche de Mark Carney, le chef du Parti libéral du Canada. On n'avait pas entendu ça dans les 10 ans de l'ère Justin Trudeau. Mais avant, je te fais écouter un extrait, conférence de presse de François-Philippe Champagne ce matin, et on en discute.
Ben, les gens comprennent, mais vous savez, les familles font des choix difficiles aussi depuis longtemps. Alors, c'est normal que comme gouvernement, on aura des choix difficiles à faire. Mais en même temps, comme je vous dis, il faut avoir de l'ambition dans nos investissements puis de la rigueur dans nos dépenses. Moi, c'est comme ça que le cadre, si vous me demandez, de l'ambition, parce que les gens comprennent à la maison, si vous voulez avoir des dividendes, vous devez investir. Alors, il faut investir. On parle d'infrastructures, on parle de corridors commerciaux, on parle de redéfinir des secteurs d'activité, on parle d'aider certains secteurs à pivoter, parce qu'évidemment, notre grand partenaire commercial nous tourne le dos. Alors, c'est un moment comme celui-là où il faut se réinventer. Mais en même temps qu'on fait ça, c'est là où la rigueur prend tout son sens. C'est-à-dire, bien là, ça prend une rigueur budgétaire. C'est pour ça qu'on fait l'exercice qu'on a fait avec nos collègues pour dire on doit avoir de la rigueur dans les dépenses publiques. Il y a eu une augmentation pendant des années des dépenses publiques. Puis on doit ramener ça d'une façon sérieuse et rapide. Moi, je vous dis, on est le gouvernement de l'économie, le gouvernement du changement. Et ce que vous allez voir durant les prochaines semaines, les prochains mois, c'est vraiment un gouvernement qui focalise sur l'économie, mais en même temps qui va amener un niveau de changement historique ici dans le pays pour avoir une économie résiliente pour l'avenir.
Gabriel Gigard, est-ce que tu crois à cette rigueur de la part du Parti libéral du Canada? Moi, après 10 ans de Justin Trudeau, après des fiscalistes de renom comme Luc Godbout qui dit « on s'en va vers un déficit de 92,2 milliards de dollars », on dirait que j'ai de la misère à y croire. Est-ce que je suis trop cynique?
Ben voyons donc quand même. Tu sais, on fait juste écouter le ministre Champagne. Là, on a besoin de changement, le parti de l'économie. Le changement, ça fait 10 ans que les libéraux sont au pouvoir. Le parti de l'économie, il faut quand même se rappeler que M. Champagne, c'est quand même la personne qui a mis de l'avant la filière batterie au Canada. Là, puis on voit qu'est-ce que ça donne actuellement avec des Nordvolt, des Lion, des Taiga. Donc, je vous avoue que je suis extrêmement perplexe. Sinon, je pense que c'est vraiment de la comédie, sans être plate, parce que quand on regarde les chiffres, là, on voit le ministre essayer là, de comment je pourrais dire ça, de tordre la réalité en disant les dépenses, les investissements, là, je pense qu'il faut prendre un pas de recul, de regarder le portrait tel qu'il est. C'est-à-dire que le ministre nous dit qu'en 3 ans, on pourrait réduire les dépenses de 25 milliards de dollars, là, quand on dit on va réduire les dépenses de fonctionnement. Mais en réalité, à côté de ça, on augmente les dépenses parce qu'on pense que l'État doit orchestrer l'économie, ce qui est totalement faux par ailleurs. Et donc, concrètement, là, les Québécois, les Canadiens, est-ce qu'on est plus endettés ou moins endettés? Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut le dire. Puis qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Bon, on voit que le déficit pourrait être en haut de 75 milliards de dollars, ce qui est bien en haut de ce que les libéraux avaient prévu, et bien en haut actuellement là, du déficit de 44 milliards pour la dernière année fiscale. Donc, on comprend qu'on augmente le déficit, on augmente la dette, peu importe si on parle d'austérité pour essayer de se donner un vernis de crédibilité sur le plan de la rigueur budgétaire. Le concret, le réel, ben, il est têtu, puis c'est toujours lui qui a raison.
OK, je m'excuse, Gabriel, là, mais tout le long de la prise de parole de M. Champagne, je riais de l'autre bord de mon micro, puis j'étais un peu découragée parce que je me dis, là, là, moi, mon cheval de bataille en politique en ce moment, c'est de savoir jusqu'à quel point les politiciens pensent qu'on est des cancres, puis qu'on peut nous dire n'importe quoi. Puis j'étais un peu tannée de la conversation parce que M. Champagne, c'est aussi lui qui nous a mis dans le gorgoton que ça allait se faire le virage à l'électricité pour les véhicules en 2035, puis on y croyait, puis tout le virage électrique, il faut mettre l'accélérateur, puis il était sûr, puis il croyait, puis à un moment donné, mon serviré de bord, mais ça faisait des prises et des prises de parole qu'il faisait pour le gouvernement en disant ça va se faire, puis on y croit, puis on est rendu là. Puis à un moment donné, bien, on se rend bien compte qu'on s'est fait dire n'importe quoi. On n'y croyait pas quand il nous parlait, puis clairement, il devait même pas y croire, puis c'était du théâtre quand il faisait. Et il renvoie ce ministre-là pour nous parler d'un autre projet de société super important qui, là, est l'enjeu majeur de la dernière élection fédérale, soit le portefeuille économique du pays, pour nous convaincre de quelque chose que même pas la compétence politique actuelle pour faire. Juste dans qui on envoie, je ne le comprends pas malgré son statut politique.
Je le comprends pas également. Je pense que c'est un super bon point. Là, on a un ministre qui est arrivé pour nous expliquer que le Québec, le Canada allait devenir les batteries, là, les poumons verts de l'Amérique du Nord. Très concrètement, ça a été un flop. Et là, on essaie de trouver là la prochaine chose intéressante pour mousser là la candidature de Mike Carney parce qu'il a été élu, mais quand même pour redorer l'image économique du ministre puis du Parti libéral qui a quand même été entaché au cours des 10 dernières années avec Justin Trudeau, faut le rappeler. Mais en réalité, je suis pas persuadé qu'il y croit. Puis s'il y croit, je trouve ça très dommage de voir à quel point le cadre fiscal, le cadre réglementaire est tellement pas intéressant au Canada que c'est rendu que le ministre nous explique que c'est à l'État de développer l'économie en faisant mille et une interventions dans son économie.
L'interventionnisme, Gabriel, du gouvernement n'a plus de sens et on oublie tellement qu'on est interventionniste que Pablo Rodriguez, nouveau chef du Parti libéral du Québec, dit Nordvolt, c'est l'échec de François Legault. Il oublie qu'il était dans ce gouvernement-là, le gouvernement Trudeau.
Non, c'est absolument incroyable. On voit ça. C'est que c'est difficile après ça de faire confiance aux politiciens quand on nous vend un projet qui, depuis le début, là, on le disait à l'IEDM, là, ça fonctionnera pas. Le gouvernement n'a pas les compétences pour nous expliquer, puis pour investir des milliards de dollars, plutôt dépenser des milliards de dollars en nous expliquant que c'est la prochaine industrie. Évidemment, il n'y avait pas les compétences pour ça. Là, on décide là de prendre certains projets. On verra, mais encore une fois, c'est dommage que le gouvernement souhaite compenser le manque de dépenses en capital du privé. Autrement dit, on est tellement pas attirant pour les investisseurs au Canada que le gouvernement considère que c'est lui qui doit investir plutôt que de simplement réduire le fardeau fiscal, réduire le fardeau réglementaire. On en a déjà parlé pour les grands projets d'infrastructure énergétique notamment. Il faut changer ça. Il faut changer la machine, mais le gouvernement décide de centraliser ça. Puis ça, c'est vraiment dommage. Puis on va le voir, là. Faut pas se surprendre. Début octobre, ça va être un déficit monstre au fédéral. On va nous expliquer qu'on est en austérité. Mais moi, j'invite tous les auditeurs à ouvrir un dictionnaire puis à lire le mot austérité pour comprendre que le ministre dit absolument n'importe quoi sur cette question-là. L'austérité, ça a un sens. Je veux dire, tu peux pas augmenter tes dépenses, augmenter ton déficit, puis nous expliquer qu'on est en austérité. Certes, il peut y avoir des réductions ciblées, mais très concrètement, le ministre qui nous vend de l'austérité, c'est uniquement pour avoir un vernis de crédibilité en matière de gestion des finances publiques. Mais rappelez-vous que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, cet endettement-là qu'on va voir à cause des mesures des prochaines années du gouvernement Carney et du ministre Champagne, ben ça va être les jeunes générations, ça va être les futures générations aussi qui vont payer pour ça, parce que ça va être beaucoup d'endettement, ça va être des intérêts sur l'endettement. Collectivement, on va y perdre, puis on va quand même nous expliquer que non, c'est la bonne mesure. Je le rappelle, mais les promesses politiques n'engagent que ceux qui les croient, et j'espère que nous ne serons pas assez dupes pour les croire.
Pour rappel, on parle avec Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Gabriel, avant de continuer, Pascal, il y a quelque chose dans la circulation.
Oui, je vais vous surprendre, mais c'est vrai. Alors, c'est constaté par un de nos auditeurs. Il y a un escabeau dans le chemin avant la sortie Georges Muir, direction sud. C'est un peu risible, mais en même temps, c'est super problématique.
C'est très dangereux.
Ça peut être dangereux. Alors, escabeau dans le chemin avant la sortie Georges Muir, direction sud. Et on vous rappelle aussi de bien attacher vos articles qui pendent de votre voiture.
Gabriel, le gouvernement libéral du Canada va tenter de nous flouer en nous disant non, notre budget opérationnel, là, on fait des économies, mais c'est à cause des investissements majeurs en raison de Donald Trump qu'on fait ces déficits monstres-là. Faut pas se laisser leurrer. Ça n'a jamais été séparé dans un budget de l'État des investissements puis de l'opération. Puis de toute façon, dans la vie courante, toi, tu peux pas dire à la caisse, non, je suis en dette de 400 000, mais c'est parce que j'ai investi dans ma maison. Faut que tu la rembourses, cette dette-là.
Il va falloir la rembourser, puis il est là le problème. Je comprends que Donald Trump, c'est un gros bonhomme, mais il n'y a pas le dos si large que ça. Puis le gouvernement essaie de nous faire croire que là, tous les maux sont à cause de lui. Écoutez, là, il faut arrêter de nous prendre pour des nonos collectivement, parce que très concrètement, oui, ça n'a jamais été divisé. Puis en plus de ça, les dépenses en capital, on veut nous faire croire que des subventions aux entreprises, là, le fait de prendre notre argent qu'on envoie aux deux semaines sur notre paye puis de l'envoyer à une entreprise étrangère, ça, c'est des investissements en capital.
Et que le gouvernement décide pour nous, il ne laisse pas le libre marché, et surtout, tu le dis bien, investit dans des entreprises étrangères, investit même pas dans nos PME à nous.
Non, ben c'est ça exactement. On voit que ça va être envoyé à des entreprises étrangères. Puis là, tu te dis, attends un peu, là, c'est parce que c'est mon argent, puis tu es en train de m'expliquer que ça, c'est pour mon bien plutôt que de le laisser dans mes poches. Puis là, tu augmentes également la dette que je vais devoir payer. Puis c'est de l'argent qu'on pourra pas mettre dans d'autres postes essentiels. Puis il faut aussi rappeler une chose qui est importante. Dans cette dynamique-là, non seulement il va y avoir une augmentation des dépenses dites investissement, mais comprenons-nous, c'est simplement des dépenses. Il y a également l'augmentation des dépenses au niveau du militaire. On le sait, le Canada s'est engagé à augmenter ses dépenses militaires. Et donc, le fait d'aller de l'avant avec ce type de dépenses-là, je dis pas que c'est bon ou pas, je dis simplement que si le gouvernement dit « nous, on va là », ben il va falloir couper encore davantage. Mm-hmm. Alors là, on est dans une dynamique où le gouvernement, s'il veut parler d'austérité, doit réduire ses dépenses, doit réduire très drastiquement son déficit, et on ne s'enligne pas du tout pour une dynamique de la sorte. On s'enligne pour une augmentation des dépenses, une augmentation du déficit, une augmentation de l'endettement. Donc, on ne gagne pas collectivement. J'espère que le gouvernement va réduire le nombre de fonctionnaires, mais je pense que ce ne sera pas suffisant pour combler l'augmentation là, des dépenses, notamment, là, on dit en capital, mais c'est pas ça, là. Mais les dépenses que le gouvernement va vouloir faire pour des grands projets plutôt que de réformer le cadre réglementaire pour que, de toute façon, le gouvernement n'ait pas à dépenser. Ça va être les entreprises privées qui vont vouloir dépenser pour développer le Canada à l'heure où on se parle. C'est pas le cas et c'est ça qui est bien navrant.
On est choyé à Boulevard 102.1 et on jase le midi parce qu'on va pouvoir compter sur l'excellence de Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal, pour pouvoir surveiller justement ce premier budget de l'ère Carney. Gabriel, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis ça sera un rendez-vous hebdomadaire selon l'actualité, selon les sujets que tu me proposes à On en jase le midi, ici sur Boulevard 102.1.
À bientôt.
Salut Gabriel, merci beaucoup. J'aime beaucoup Gabriel, il vulgarise très bien l'économie pour nous, puis il parle des vrais enjeux et l'enjeu de l'endettement du gouvernement fédéral à l'heure actuelle. C'est vraiment un enjeu très important. La dette a plus que doublé sous l'ère Justin Trudeau en disant, Pascal, c'est nos générations futures qui vont payer le prix. Là.
Mm-hmm, absolument.
Yes. Pascal, il y a une nouvelle très intéressante à Québec, c'est-à-dire championnat mondial d'hockey junior et hockey féminin qui s'amène au centre Vidéotron, mais il y a aussi une nouvelle qui en fait frémir, c'est-à-dire des poursuites pour agression sexuelle envers des religieux.
Bon, on va commencer avec la bonne nouvelle. On est en fin d'émission, on espère attirer votre attention comme ça, mais l'avenue des championnats du monde de hockey féminin, c'est pour 2027 et aussi du mondial de hockey junior en 2029. Ça va être à Québec et à Trois-Rivières, puis on vient d'apprendre que ça pourrait engendrer près de 60 millions de dollars en retombées économiques. C'est énorme.
Vraiment.
Donc, deux villes, le gouvernement québécois qui ont décaissé 10,5 1,38 million pour de l'argent public afin d'obtenir les deux grands rendez-vous de sport national. Mais ça pourrait être extrêmement payant. On espère que le gouvernement a bien calculé cette fois-ci, là. Mais si on arrive à diviser 60 millions de dollars là, de retombées économiques entre Québec et Trois-Rivières, on va vraiment avoir un événement digne de mention au niveau économique, au niveau sportif et aussi rayonnement pour la ville. Puis dans le cas du championnat du monde de hockey féminin pour 2027, c'est tous les matchs qui vont se tenir ici à Québec.
Wow.
La majorité au centre Vidéotron. Près de 6 000 chambres d'hôtel qui devraient être réservées. 100 000 spectateurs attendus dans le cadre de l'événement pour plein de retombées. Là, on estime ça à 10 millions pour celui du championnat de hockey féminin. Dans le négatif. Mais dans le négatif, il y a un peu de positif.
Oui, c'est ça, parce que c'est un feu vert à une action collective.
Exactement, celle pour agression sexuelle contre les udistes. Alors, c'est sorti Radio-Canada qui a appris que la Cour supérieure avait autorisé mardi cet exercice-là d'action collective contre la congrégation religieuse des udistes pour des agressions sexuelles qui remontent il y a plusieurs années, donc pour des membres en 1940 à aujourd'hui, mais dans divers établissements d'enseignement puis des paroisses aussi placées sous la responsabilité au Québec. C'est un recours judiciaire, ça vise principalement les udistes, comme je vous disais, donc toute la congrégation, mais aussi les œuvres eudistes, l'externat Saint-Jean-Eudes et le collège Jean-Eudes. Il y a un homme à l'origine de la demande de cette action collective-là qui est connu par ses initiales. On dit c'est GG et il s'est vu accorder le statut de représentant pour toutes les victimes. Donc, c'est lui qui va être un peu le leader de tout ça. Et lui, il allègue avoir été agressé sexuellement à répétition par le père Charles-Eugène Langevin. C'était un père eudiste. Il était étudiant à l'externat classique Saint-Jean-Eudes ici à Québec entre 1965 et 69 et l'établissement qui a été administré par les eudistes jusqu'en 1968. Ben, c'est maintenant connu comme l'externat Saint-Jean-Eudes. Là, ils n'ont plus affaire là-dedans, mais quand même, M. Gégé a déposé sa demande d'autorisation pour l'action collective. Ça va peut-être servir à d'autres qui ont des choses à dire, des choses aussi à pointer du doigt, mais le 12 octobre 2023, ça a été fait dans le district judiciaire de Montréal. Puis l'audience a eu lieu le 8 avril 2025 au Palais de justice de Montréal. Ça prend du temps, mais on avance. Feu vert maintenant donné pour cette action collective.
En 2016, ce que je pensais être un simple fait divers est devenu l'un des dossiers les plus intrigants de ma carrière.
Je me suis inscrite sur des sites de rencontres. Je cherchais mon prince charmant.
L'histoire d'un fraudeur amoureux.
Son mode de vie, c'est de se promener de femme en femme et de maison en maison, puis de compte de banque à compte de banque. Là.
Un beau parleur et dit « je suis multimillionnaire ».
5 millions.
10 millions.
J'ai poigné de jackpot.
Un profiteur.
Pascal, nouveau documentaire de la journaliste Catherine Lamontagne concernant un prince charmant, un homme qui a fraudé énormément de femmes en leur faisant croire qu'il était amoureux d'elle. Ça va sortir à quel moment? Et parle-nous de ceci.
Dès le 25 septembre sur Illico+, la bande-annonce, vous avez entendu un petit segment, mais vraiment intéressant à aller voir là, au complet. Catherine Lamontagne, journaliste d'ici au bureau d'enquête du Journal de Québec, qui travaille là-dessus, qui planche là-dessus. Elle est allée là, dans un genre de procès X, puis finalement, elle se rend compte que c'est une énorme fraude. C'est 8 victimes courageuses qui se sont livrées à cœur ouvert, à visage découvert. Ça peut être extrêmement honteux de raconter leur histoire qui pensait être un conte de fées qui finalement s'est avéré un véritable cauchemar. Là, il y en a qui disent « moi, j'ai plus fait confiance à un homme par la suite » et tout ça. C'est 2 années de travail complet. Une équipe qui était dédiée à ça sur le cas de Serge Rivard. Série documentaire sur à quel point l'amour des fois peut être utilisé par des arnaqueurs pour aller vider des comptes de banque familiaux.
Et rend aveugle nécessairement lorsqu'on est en amour.
Mm-hmm.
Donc, oui, ça va être à suivre. C'est sur Illico+. Merci beaucoup, Pascal, de nous informer de ce documentaire-là. Et on en profite pour faire de la sensibilisation et rappeler aux femmes là, que c'est pas normal qu'un homme qui vous aime vide votre compte en banque.
Même chose pour les hommes.
Oui, même chose pour les hommes avec les femmes sur Internet qu'on pense qui sont amoureuses de nous. T'as entièrement raison. Pascal, c'est un bonheur d'avoir fait cette émission-là. Aujourd'hui, on en jase le midi avec toi. Les meilleurs moments vont se retrouver, évidemment, sur le site BLVD.fm. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écouter via la web radio. T'es en congé demain?
Absolument. C'est le Kilimanjaro qui s'en vient. Hein. On prend toutes les dispositions possibles. Puis malheureusement, sur l'heure du lunch, il faut que je te quitte demain. Mais je reviens lundi.
Lâche pas Spicy P. J'ai très hâte de te revoir lundi. Déjà, on se quitte et c'est le retour de Gravel qui suit à l'instant même sur les ondes de Boulevard 101. Bye bye, guys. À demain.